France Musique.
C'est l'un des musiciens les plus sensibles, les plus bouleversants, qui s'est fait chanter son piano comme peu y parviennent. On arrête là les louanges. Bonjour Adam Laloum.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin à deux jours d'un récital Schubert au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Un récital monstre, on en parlera tout à l'heure. Schubert, c'est aussi votre nouveau disque, il sort cette semaine, vendredi. Deux sonates, la sonate en sol majeur, 894, et la sonate en ut mineur, 958. Nouveau disque chez votre nouveau label, Harmonia Mundi. Adam Laloum, à 32 ans, bientôt 33, mais pas encore, vous avez déjà enregistré Schubert, c'était la dernière sonate, la 960. Pourquoi à nouveau lui? Et pourquoi ce miroir entre ces deux œuvres, ces deux sonates assez différentes?
Pourquoi encore Schubert? C'est surtout parce que en ce moment, je suis en plein dedans. Et puis, en fait, oui, depuis plusieurs années, je me rends compte. Mais je sais pas, je trouve ça toujours délicat, surtout avec le niveau des musiciens, des pianistes en particulier aujourd'hui, qui est extrêmement élevé. Disons que moi, je me sens bien dans ce répertoire-là. Et surtout, je me dirais, par exemple, enregistrer la sonate de Liszt avec les versions de Trifonov ou d'autres jeunes pianistes extraordinaires. Voilà, je pense pas apporter vraiment quelque chose. Enfin, c'est pas que dans Schubert.
Si vous apportez quelque chose.
J'ai l'impression de me sentir mieux, de mieux rendre service à la musique de Schubert, on va dire plus simplement. Et enfin,
vous avez quelque chose à dire.
C'est difficile. On a tous des choses à dire. Après, celui qui a quelque chose à dire avant tout, c'est le compositeur. Après, c'est à nous d'essayer de créer une harmonie entre son propre corps, son propre esprit, et puis la musique qu'il faut servir. Donc c'est vrai que selon les personnalités, voilà, chaque musicien peut être plus à l'aise avec un compositeur plus qu'un autre. Et voilà, c'est vrai que à ce niveau-là, je me sens Schubert, un compositeur voilà que je joue souvent et que j'aime beaucoup. J'ai l'impression de lui rendre mieux service qu'avec d'autres compositeurs. Voilà.
Et alors ces deux œuvres, ces deux sonates, sol majeur et mineur, on est dans les dernières années de la courte vie de Schubert, mais c'est deux caractères très différents.
Oui, c'est deux sonates qui sont voilà extrêmement différentes. D'ailleurs que les musicologues, la plupart des gens spécialistes de Schubert vont dire qu'ils sont de deux périodes différentes de la vie de Schubert. Et pourtant, il y a seulement un an et demi qui les sépare. Donc c'est deux mondes très différents, même si évidemment on reconnaît Schubert dans chacune de ses sonates. L'atmosphère qui se dégage du premier mouvement de cette sonate et même qui reste constante avec évidemment des passages contrastants, mais qui reste quand même l'atmosphère générale de la sonate jusqu'au bout. Et puis pareil, ce final qui termine pas en fanfare comme les deux dernières sonates, mais qui ne veut pas, qui n'en finit jamais de finir aussi que comme dans ces dernières sonates. Donc c'est une sonate voilà qu'on dit de la période, on va dire juste avant la dernière période, mais qui annonce déjà beaucoup le caractère voilà des deux dernières sonates.
Cette sonate en sol majeur, la 894, vous parliez du premier mouvement, voici le début. Le début du premier mouvement de cette sonate en sol majeur de Franz Schubert, la sonate opus 78 ou Deutsch 894 pour les petits numéros. C'est Adam Laloum au piano, c'est un disque qui paraît cette semaine chez Harmonia Mundi. Adam Lanoux, votre Schubert, votre façon de jouer, de l'appréhender, est-ce qu'elle a évolué avec le temps, parce que vous le jouez depuis longtemps et vous l'enregistrez déjà à bientôt 33 ans, depuis une bonne dizaine d'années presque?
J'espère en tout cas. Après c'est comment dire, la différence des fois entre ce qui peut se passer dans notre tête et puis le vrai résultat peut être très grand. On peut avoir l'impression de déplacer des montagnes sans faire grand chose, et puis parfois le contraire, on a l'impression de pas avoir changé grand chose, et puis tout d'un coup on aborde une œuvre vraiment sur un niveau supérieur. Donc non, par contre, c'est impossible à dire, même si j'ai, évidemment, on espère tous être allés dans le sens de l'évolution, de comment dire, de on a tous envie de bien vieillir, bien mûrir, même si on n'en est jamais certain.
Par exemple, vous avez déjà enregistré la dernière sonate de Schubert, vous pourriez la réenregistrer maintenant, ou c'est même peut-être déjà prévu?
Alors c'est pas prévu, mais j'espère très fort, oui, que ça arrivera, parce que c'est une œuvre avec lesquels on grandit, avec lesquels on passe du temps.
Enfin, qui vous hante chance,
qui me hante, oui et non, parce que ça m'a beaucoup hanté quand, avant de la travailler surtout, la première fois que je l'ai entendue, et puis ensuite réentendue.
Vous écoutiez quelle version?
Il y en avait plusieurs. La première fois que je l'ai entendue, c'était en concert à Toulouse, donc c'était Elisabeth Léonskaya, et ça m'avait...
Au Jacobin?
Au Jacobin, c'était vraiment bouleversant. Ensuite, je suis tombé sur plusieurs versions que j'ai beaucoup aimées, de Alfred Brendel, Radulupu, Richter, qui est absolument phénoménal dans cette sonate. C'est une sonate qui hante, et en même temps, je pense que pour tous les pianistes qui la jouent, c'est aussi une sonate refuge, dans laquelle on parlait de progression, de d'évoluer avec une œuvre. C'est une œuvre sur laquelle on voit très vite quand on la joue, quand on la rejoue plusieurs années après, on voit, c'est un excellent miroir de soi-même. Enfin, en tout cas, là, de la reprendre pour ces concerts pendant lesquels j'aurai la chance de la jouer, voilà, je vois que juste que j'en suis un autre endroit, donc avec des qualités et aussi des défauts que peut-être je n'avais pas avant, donc c'est juste un autre endroit, ouais.
Schubert, vous allez le jouer la semaine prochaine, Adam Lanoux, le 13 à Poitiers, à l'Auditorium, et puis après-demain à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées, non pas une, non pas deux, mais les trois dernières sonates. C'est assez monstrueux comme programme, ça se donne rarement, enfin, j'ai jamais vu ça. Pourquoi? Quelle est sa cohérence? Vous êtes pourtant pas un type à vouloir battre des records.
Non, pas battre des records, mais vivre des expériences fortes, on va dire, peut-être plus. Après, ça pourrait être, selon les personnalités, ça pourrait avoir l'air d'une performance ou pas, mais le généralement, quand je vois des musiciens comme ça se lancer dans des intégrales, bon, après il y a des intégrales qui n'ont pas forcément la même connotation que d'autres. Quand on fait les 24 études de Chopin, c'est ça n'est pas pareil que quand on dit qu'on va faire les 32 sonates de Beethoven. Ce sont à chaque fois des projets différents qui ciblent comment dire des sensibilités différentes aussi. Donc les trois dernières sonates, c'est long.
C'est près de 3 heures de concert, hein.
Oui, disons, avec l'entracte et tout ça. Oui. C'est 3 heures. C'est quand même. C'est long, et en même temps, pour l'avoir expérimenté un petit peu, comment dire, c'est pas qu'il y a une forme de logique, mais il y a
une cohérence.
Une cohérence, en fait, qu'on finit par se créer. Moi, musicien, mais aussi les auditeurs, pour ceux qui arrivent à rentrer dedans. C'est-à-dire que ces trois sonates, qui sont quand même trois versions, disons, d'un même compositeur, très différentes de l'état de sonate, je sais pas comment dire. Je trouve que les trois sonates se différencient et se rejoignent par des points différents. Et
des premiers mouvements très longs.
Premier mouvement très long, surtout les deux dernières sonates ont beaucoup de points communs sur la forme et sur la façon de construire chaque mouvement. Par contre, elles sont extrêmement différentes sur le caractère de ces mouvements-là.
Adam Laloum, après-demain au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, dans les trois dernières sonates de Franz Schubert, le disque avec la sonate 958 et 894 sort cette semaine, cher Monier Mundi. On a commencé tout à l'heure avec le premier mouvement de la sonate en sol majeur. On se quitte avec la fin du final de la sonate 958. Merci beaucoup Adam Laloum et bon concert mercredi.
Merci. La fin de la sonate 958 de Schubert, la sonate en ut mineur, Adam Laloum, un disque Harmonia Mundi, Adam Laloum en concert mercredi au Théâtre des Champs-Élysées. 8h30, Rodolphe Bruno Boulmier dans une demi-heure, pile en piste. Quel est le programme ?
Bonjour Jean-Baptiste, le programme, il est qu'on est un petit peu en retard avec effectivement les sorties de disques, donc on a beaucoup de choses à écouter et à faire écouter, et notamment le dernier disque de Nelson Gurner. Je ne sais pas si vous l'avez écouté autour des variations sur un thème de Paganini, de Brahms, et vous l'avez peut-être entendu ce pianiste à la folle journée, génial pianiste. Donc on va ouvrir l'émission avec ce disque. On va découvrir aussi un nouvel ensemble qui s'appelle Il Tetraone, qui est un ensemble, ce sont des musiciens de musique de chambre qui jouent sur instruments anciens et qui viennent de l'Académie Byzantina d'Olivier D'Antone. Et donc on va écouter ce premier disque des musiciens. Et puis on débute une grande semaine Igor Markevitch avec des réenregistrements, des rééditions d'enregistrements de légendes de ce chef qui est d'une précision incroyable. Et donc on va se balader dans le répertoire français principalement.
Ça, ce sera à 10h30.
À 10h30, exactement.
Rendez-vous à 9h avec Émilie, l'émission. Je connais tout. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
tout à l'heure, on écoutait des quatuors à cordes, les Modigliani, les Aïdes, mais voici un quatuor de clarinette, le quatuor Enchanté. Bonjour à tous les quatre, tous les trois en fait.
Bonjour.
Puisque Nicolas Châtelain, l'un des quatre du quatuor Enchanté, est au lit, malade, alors je vais vous présenter.
Fatigué.
Élise Mar à la clarinette basse.
Bonjour.
Romain Millot, clarinette.
Bonjour.
Clarinette normale.
C'est ça, si bémol.
Et François Pascal, clarinette et corde de basset.
C'est ça, bonjour.
Cet ensemble, on le disait tout à l'heure, a 18 ans. Il vient d'atteindre la majorité. Félicitations.
Merci.
Vous pouvez faire des... Vous pouvez conduire. Vous êtes... Qui est là depuis le début?
Élisa seulement.
Élisa oui, et Nicolas.
Élise, Nicolas et Romain dans les quelques mois après la création.
Comment il s'est créé cet ensemble?
Alors je crois comme...
On en sent un petit accent chez certains d'entre vous.
Oui, voilà,
on est plutôt dans le sud-ouest.
On est tous originaires du sud-ouest, mais il s'est quand même créé à Paris, et je crois comme beaucoup d'ensembles de musique de chambre.
Conservatoire.
Au conservatoire, quand on était étudiant, donc on avait 18 et 17 ans. Voilà, ce qui est assez atypique, c'est que depuis tout ce temps, ça continue, alors qu'on a une formation qui, pour laquelle la voie n'était pas tracée.
Est-ce qu'un ensemble, je vous parlais par exemple du quatuor Modigliani, c'est leur quasiment temps plein, vous, le quatuor Enchanté, c'est l'essentiel ou la totalité de vos activités? Autrement dit, alors soyons très pragmatiques, est-ce qu'on a envie d'un quatuor de clarinette en 2020 en France?
Mais justement, c'était tout le challenge. Il y a 18 ans, on n'en vivait pas et ça n'existait pas. Et en explorant les différentes possibilités, les répertoires, les possibilités de la formation, on en vit tout à fait bien, honnêtement. Tout va très bien pour nous, merci.
Avec musicalement des œuvres originales et puis des arrangements, des transcriptions, on trouve les deux sur le disque qui sort cette semaine, Malinconia, on va en parler. Je vous propose qu'on écoute un premier extrait, là c'est un arrangement d'un grand quatuor, on sort d'un fou week-end Beethoven. Eh bien, on prolonge.
Thank you.
Et vous faites la reprise de ce quatuor opus 18 numéro 6 de Beethoven, premier mouvement, le quatuor enchanté, nos invités. Trois des quatre membres du quatuor sont avec nous ce matin pour ce disque qui s'appelle Malinconia qui vient de sortir. Beethoven, Mozart et Philippe Hersant, on écoutera et on en parlera dans un instant. Mais d'abord, cet arrangement et ces arrangements en général, ils viennent d'où? Qui les signe? Qui les conçoit?
Alors, les arrangements sont faits par un clarinettiste, ancien membre du quatuor, Bertrand Hainaut, qui s'est vraiment spécialisé
donc
dans...
Donc vous n'êtes pas fâché?
Non, pas du tout. On est toujours en très bon terme. Bertrand, on travaille toujours de manière étroite avec lui. Donc voilà, c'est Bertrand qui fait ces arrangements. Et étant lui-même clarinettiste et ancien membre du quatuor, il a vraiment développé une patte... parfaite pour nous, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas des cordes et quand on joue des arrangements de cordes, on doit respirer quand on joue. Donc lui, Bertrand, arrive à faire en sorte que on a presque l'impression que c'est écrit pour clarinette au final, quand il écrit tout ça. Et voilà, on travaille beaucoup avec lui, on travaille aussi avec Laurent Arandel. Mais là, tout pour ce CD-là, Beethoven et Mozart, c'est Bertrand Hainaut qui a signé les arrangements.
Ce répertoire de quatuor pour clarinette, il existe depuis la naissance de l'instrument?
Alors, à l'origine...
Élise Marre.
À l'origine, on connaît bien Mozart pour être le premier grand représentant du répertoire de clarinette, enfin, connu du grand public en tout cas, parce qu'il y en a quand même eu avant, mais vraiment c'est plus pour des spécialistes. Et Mozart, justement, a été le premier aussi à composer pour ensemble de clarinettes, avec une œuvre en particulier pour trois cordes basses et deux clarinettes, mais on trouve beaucoup de trios aussi. Mais à cette époque-là, il faut savoir que l'instrument le plus grave de la famille est le corde bassée. Donc le corde bassée est un instrument qui, en termes de tessiture, équivaut à peu près à l'alto. Donc on descend pas vraiment très très grave, on manque de profondeur et donc on a du mal à aller vers la forme de quatuor à cette époque-là. Et puis les possibilités de l'instrument ne sont pas celles qu'elles sont aujourd'hui en termes de justesse, en termes de puissance, en termes de facilité aussi hein, de pouvoir jouer beaucoup de tonalités différentes. C'était pas du tout le cas à l'époque. On joue vraiment certaines tonalités, mais pas toutes. Et là, l'instrument a beaucoup évolué jusqu'à aux années 1850 où la clarinette basse apparaît avec Monsieur Sachs.
Que vous jouez.
Que je joue moi-même, voilà. Donc c'est un instrument très très récent au vu de l'histoire de la musique. Et là, on a un autre quatuor qu'on a découvert nous très récemment d'Alfred Bruno, qui était un compositeur donc de l'époque de Richard Strauss, très connu à cette époque-là, et qui a aussi donc composé un quatuor de clarinette avec cette fois-ci la formation que nous avons choisie pour ce disque, donc clarinette basse, corde bassée, et deux clarinettes. Et voilà, je ne sais plus exactement où je voulais en venir.
Non, mais je faisais un petit historique. Vous refusez de jouer la musique avant l'existence de la clarinette, la musique baroque, la musique plus ancienne ou...
Bah, c'est-à-dire
ça pourrait arriver plus tard.
C'est un répertoire qu'on n'a jamais vraiment étudié au conservatoire, tout ça.
La vie est longue, vous n'avez que 18 ans, enfin, en tout cas l'ensemble.
C'est vrai. Alors pour l'instant, non, on ne s'y est pas trop attardé parce que c'est peut-être des codes encore qu'on n'a pas vraiment, qu'on ne maîtrise pas tout à fait. Et pourquoi pas plus tard. Mais pour l'instant, non, ça, ce sont des choses auxquelles on ne touche encore pas vraiment.
Tout peut se jouer en quatuor de clarinette, ouais. Notamment quand on passe du quatuor à cordes à ces arrangements très...
Alors non, absolument pas.
Réussi, signé Bertrand Hainaut.
Malheureusement.
Il y a des choses, vous refusez. La grande fugue de Beethoven à la clarinette, pourquoi
pas. Je crois qu'on est parti un peu sur le principe de ne rien se refuser, mais on est quand même confronté à des impossibilités, ça c'est sûr. On a voulu jouer le quatuor de Debussy... À un moment donné, il y a des choses qui sont vraiment pas possibles et qui gâcheraient. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'on aime bien faire des relectures, on essaye d'aller loin dans l'arrangement. Hein. Donc, on peut vraiment s'éloigner du texte pour essayer d'apporter une nouvelle lecture sous prétexte qu'on joue d'un instrument avant, que voilà. Mais parfois, c'est pas possible. Donc voilà, on a quand même beaucoup de chance déjà finalement de pouvoir aborder parce qu'on on aborde beaucoup le répertoire d'orchestre aussi. On aborde le répertoire pour piano. Donc ça va, on a de quoi faire. On s'ennuie pas.
Vous en voulez à certains compositeurs, à Beethoven par exemple, de ne pas avoir beaucoup écrit? au sein de l'orchestre, bien sûr, mais pour votre instrument, Romain.
Il n'avait pas les connaissances et les compétences nécessaires à cette époque-là.
Alors, il y a aussi des compositeurs vivants qui écrivent pour vous. En voici un. C'est sur ce disque. On va en parler dans un instant. On écoute d'abord la musique de Monsieur Philippe Hersant. La troisième des huit esquisses de Philippe Hersant, le quatuor enchanté, un disque qui vient de sortir chez Anima, qui s'appelle Malinconia. D'abord, Philippe Hersant, la rencontre, comment s'est-elle faite?
Alors, il y a très longtemps.
C'était au festival de Côte-sur-Ciel, je crois, la première fois. Il était venu nous écouter lors d'un concert. À Côte-sur-Ciel, je crois.
Exact, bravo. Et surtout, on avait écouté sa musique. Moi, à l'époque, je la découvrais. Il faut dire que c'est il y a 17 ou 16 ans, à peu près, je pense.
Oui, c'était au tout début.
Et puis, à l'époque, moi, je m'étais dit, waouh, ce serait tellement génial de jouer cette musique un jour. Mais est-ce qu'un jour, un compositeur voudra composer pour notre formation? On savait, enfin voilà, tout était encore tellement frais.
Il l'a fait.
Et il l'a fait, voilà, mais c'est vrai qu'il nous a entendus depuis un paquet de fois, parce qu'il est aussi parrain de pas mal de festivals, donc dans lesquels on a été invités à jouer.
Il y a la Fondation Banque Populaire aussi,
voilà,
dont il a été parrain.
Président même, voilà. Et dont on a été lauréat, voilà.
On l'a rencontré plusieurs fois, on lui a demandé s'il voudrait bien composer pour nous. Et
Il avait toujours tendance à nous mettre un petit peu au fond de son agenda, dire
procrastiner.
Oui. Alors l'air de dire, nous, on savait pas trop s'il voulait nous dire que bon, il avait pas trop envie en fait,
ou qu'il avait peur d'écrire pour quatre clarinettes.
Ah peut-être, oui, c'est vrai. c'était trop cher pour nous. Enfin, on savait pas trop quoi. Et puis c'est vrai qu'au bout de quelques années, à force d'insister, enfin nous, on s'est dit bon stop, on arrête. On lui en parle plus de cette histoire, c'est pas possible, on peut pas tout le temps l'embêter quoi.
Et puis finalement
là on a reçu une partition par la poste.
Voilà. Non, c'est 8 esquisses.
Et donc il sait écrire pour la clarinette, on vient de l'entendre.
Il est bien pour la clarinette.
Ouais. 4 clarinettes.
Et puis il a compris notre formation, enfin c'est magnifique de prendre une partition et puis que ça fonctionne tout de suite.
Ça marche de suite, ouais.
Voilà, c'est en particulier quand on fait beaucoup de transcriptions ou de musique ou de création, il y a souvent un long travail d'échange entre l'arrangeur, les musiciens ou le compositeur et les musiciens pour trouver des compromis, des choses qui fonctionnent quoi. Ça marchait et depuis on le joue très très souvent et puis ça...
Et ça marche très bien auprès du public aussi. Voilà. Souvent, le public, ça peut arriver d'être un peu réfractaire à certains types de musique. Quand ils voient R5, ils disent « Ah, ça va être contemporain. »
Quand ils voient qu'il n'y a pas de date de mort,
ouais.
Peut-être. Et au final, la pièce est toujours... N'importe quel public est très bien reçu, les gens adorent. Et... Bon, voilà, comme disait Élise, ça marche direct, quoi.
Qui a écrit pour vous aujourd'hui, au bout de 18 ans d'existence? D'ailleurs, vous avez commencé à avoir un...
Richard Dubignon.
Richard Dubignon.
Qui va nous composer un nouvel opus, d'ailleurs. Il nous en a composé un pour un album qui est réédité, là, qui s'appelle Suite et Funk. Mmh. On lui a commandé une autre œuvre parce qu'on avait bien aimé ce qu'il avait fait et puis on s'entend très bien avec lui aussi. C'est quelqu'un qui fait preuve d'intelligence dans sa manière d'écrire, pour nous en tout cas, qui s'est intéressé à la formation, qui est venu nous écouter, qui, voilà, avec lequel on partage des liens amicaux. Et donc il nous compose un nouvel opus, mais aussi, et ça c'est assez nouveau, et on va bientôt la mettre au répertoire, c'est une valse composée par Vincent Perani, par exemple. Vincent Perani qui nous a fait le cadeau de nous composer une petite valse, donc il a le secret.
Et puis pour la formation du quatuor de clarinette, dans les 10 dernières années ou 15 dernières années, il y a eu pas mal de compositeurs comme Eskech, Bakri,
Defa,
Connaisson, voilà, qui se sont quand même vraiment intéressés à la formation.
Malinconia, c'est le nom de ce disque, un petit mot d'ailleurs de ce titre qui nous explique.
Alors le titre, il est emprunté au dernier mouvement du quatuor de Beethoven, qui s'appelle La Malinconia.
La mélancolie.
La mélancolie, exactement. Et on a choisi d'en faire le titre de l'album, car le quatuor de Mozart aussi, que nous jouons, le numéro 15, a la particularité d'avoir un premier mouvement qui est mineur. C'est le seul des quatuors de Mozart qui est en mineur. Donc il y a cette petite touche aussi de mélancolie dans cette musique-là. Et on peut aussi retrouver dans les pièces d'Hersan, Philippe Hersan dit de ces pièces qu'elles sont empruntées d'un folklore imaginaire. Donc on est assez libre d'imaginer un peu ce qu'on veut, et elles sont aussi, elles aussi, empreintes de cette mélancolie en fait. C'est peut-être pas très vendeur et pas très joyeux de dire
mais
ça,
non, mais...
mais c'est un peu l'image que les émotions qui en ressortent, et on trouvait le mot très beau, et voilà, on a décidé d'en faire le titre de cet album.
Malinconia, c'est le nouveau disque du Quatuor Enchanté. D'ailleurs, il y aura un concert de lancement de disque. Ça se fait maintenant, tout le temps. Ce sera au Bal Blomet après-demain, mercredi. Vous parliez de ce premier mouvement du Quatuor, le seul Quatuor en mineur de Mozart. Bah, le voici. Bon, c'était le troisième mouvement, mais c'était pour voir si vous suiviez de ce 15e quatuor de Mozart. Donc là aussi, c'est une transcription de Bertrand Hainaut.
Exactement, oui.
Le quatuor enchanté, nouveau disque, Malinconia, qui vient de paraître, qui sort, concert au Bal Blomé après-demain. Et puis, beaucoup plus tard, le 11 août, un programme que vous donnerez au Festival des Nuits Musicales de Corps, enregistrement d'ailleurs dans un lieu très beau, François Pascal, on peut en dire un mot,
Villefavard. Ouais, on a passé une semaine à la ferme de Villefavard, pour ceux qui connaissent, ou même ceux qui ne connaissent pas, allez-y. Une semaine au calme, au cœur de la campagne limousine. C'est une ancienne ferme dans laquelle, historiquement, il y avait déjà beaucoup de concerts, avec un auditorium, enfin une grange remaniée en auditorium, où dans lequel notre ingénieur du son, Ananda Scherer, n'a pas eu grand-chose à faire au final. Il a très bien travaillé, mais un couple de micros, on laisse faire l'acoustique, ça marche tout seul. On est reçus comme des rois là-bas, on dort bien, on mange bien, et c'est vraiment, on a passé une semaine...
Et donc on joue bien.
On joue bien, et voilà, c'était l'enregistrement où on prend le temps de faire les choses tranquillement, et voilà, c'était vraiment superbe.
Vous donnez un autre programme, d'ailleurs tout bientôt, le 7 février au Casino de La Felanet dans l'Ariège, ce sera aussi dans la Drôme le 9 février, à Narbonne le 10 février, et puis bien d'autres dates, notamment au Festival Radio France Occitanie-Montpellier le 21 juillet, c'est Opéra sans Diva, qu'avez-vous fait de la Diva?
Ah, eh bien, on s'en est débarrassé définitivement. On a fait le constat il y a quelques années qu'on avait beaucoup de transcriptions tirées d'opéra. D'ailleurs aussi beaucoup de morceaux connus du grand public, mais dont personne connaît l'origine au départ. Mais finalement, on a l'exemple du Vol du Bourdon, par exemple, la Pizzicato Polka de Strauss, voilà. Et donc on avait eu envie de faire vraiment un concert autour de l'opéra, des pages orchestrales hein, plutôt, parce que les airs sont quand même très très difficiles à transcrire pour notre formation. Et là, on va renouveler entièrement ce répertoire pour encore faire découvrir des pièces inédites ou oubliées, et puis reprendre des grandes pages aussi.
Un petit mot des spectacles pour enfants, Romain Millot.
Oui.
Comment ils réagissent les enfants face à quatre clarinettes? Ça les intrigue?
Généralement, je pense qu'en tout cas, grâce à nous, les conservatoires en France et les classes de clarinettes en France se sont développées. Disons qu'on a commencé avec les JMF, les Jeunesses Musicales de France, qui nous ont offert l'opportunité justement au tout début du Quatuor, en 2000, combien c'était, je sais plus, on va dire 2006, je crois. On a fait 180 concerts en 2 ans grâce au JMF. Et pour nous, ça a été une professionnalisation qui était incroyable. Et puis aussi un public qui est peut-être le plus exigeant qui soit. Quand un enfant aime pas, il le dit, il le montre, il le hurle. Et donc, c'était...
Non, ça
c'était...
vous arrive?
Oui. Non, c'est pas vrai.
Je m'en souviens pas, en tout cas.
Mais voilà. Et donc, on a développé plusieurs programmes, dont notamment un concert pédagogique. Et après, là, dernièrement, Ma Mère Loi, qu'on a décliné aussi pour faciliter l'accès aux personnes sourdes et malentendantes grâce à des systèmes qui ont été utilisés pour leur des folles journées, les sub-packs. Et on travaille en collaboration
avec les vibrations.
Voilà, c'est ça. Ouais, pour essayer de faire venir ce public-là au concert.
Ma Mère Loi, ce sera le 29 février à l'auditorium du Conservatoire de Romainville. Il y a de plus en plus quand même de quatuors avec clarinette, des quatuors avec saxophone aussi. Vous sentez vraiment que, pour finir, il y a... un développement, un engouement pour ces quatuors avant?
Oui, moi franchement j'ai...
C'est pas des concurrents les autres?
Non.
Une émulation saine.
On a rapidement senti qu'il y avait plus de formations comme la nôtre. Le quatuor de saxophone, ça existait déjà, plus développé que le quatuor de clarinette. Mais là, oui, on est de plus en plus nombreux et c'est super pour le répertoire.
Mais ça reste que des pâles copies.
Longue vie au quatuor de clarinette au pluriel, longue vie au quatuor. Enchanté, le disque Malinconia vient de sortir, le concert de lancement, c'est après-demain, mercredi, à Paris, au Bal Blomé.
À réécouter sur francemusique.fr.